belle.
Les raisins sont-ils bien rosés?
Oui. Mais moins doux, mademoiselle, que doivent être vos baisers?
Chut, chut, dit la belle. Car le monde, à cette heure-ci, du fin fond de la bourre, remonte, s'il entendait parler ainsi. Il jaserait sur notre compte.
Laure fit en soupirant le gars. Comment faire, mademoiselle, pour que les gens n'entendent pas?
Rentrons, rentrons, dit la belle.
J'achète un fusil, tant pis. Je tue un curieux, tant mieux. Je vends mon fusil, merci.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est le retour de Jazz Libre. C'est une émission néanmoins enregistrée avec des nouveautés et à la fin un hommage à Sonny Rollins, puisque c'était quand même un des derniers géants qui nous a quittés récemment. N'oubliez pas de consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre, de m'envoyer un mail à dk51@ si vous avez besoin, besoin de renseignements. Vous pouvez consulter évidemment le site de la radio, radiolibertaire.org, sur lequel vous avez l'ensemble du programme, le calendrier, les émissions, le podcast disponible pendant 12 mois après la diffusion. Et n'oubliez pas de télécharger la souscription, car nous avons besoin de votre soutien pour, en ces temps difficiles, de renouveler le matériel et de maintenir la radio dans la meilleure qualité possible. Alors, une fois n'est pas coutume, chers auditeurs de Jazz Libre, nous allons commencer par une réédition d'un musicien qui a beaucoup compté dans l'histoire du jazz, mais qui est relativement peu connu. Enfin, quand je dis peu connu, en fait, il est très 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 connu, mais est un tout petit peu oublié dans ces temps de jazz moderne, puisqu'il s'agit du cornettiste Bix Beiderbecke. Et donc, nous avons là affaire à une très très belle réédition qui a été restaurée par Michael Brownlee. En fait, c'est l'ancien directeur de la collection At Ut qui a redonné son fonds à une autre collection. Alors, c'est très bien fait, très bien édité. Et donc, il s'agit d'un double album qui s'appelle Bix Beiderbecke with the Wolverine, avec également les Sioux City Six et His Rhythm Juggler et Frankie Trombauer de 1924 à 1928. Alors bon, vous connaissez évidemment la triste histoire de Bix Beiderbecke, cornettiste et également pianiste. Donc il était blanc. Je rappelle, pour toujours essayer de resituer un petit peu les choses, que même Louis Armstrong connaissait Bix Beiderbecke, ils ont joué ensemble peu de fois, mais voilà, et ils s'admiraient l'un et l'autre, bien que étant dans un style complètement différent, mais ils sont parmi les pionniers de ceux qui ont inventé le jazz. Et donc, Bix Beiderbecke est mort à 28 ans, en 1931, je crois, parce qu'il était complètement alcoolique, donc il fait partie vraiment de cette légende du jazz. Oui, c'est ça, il était né le 10 mars 1903, il est mort le 6 août 1931, donc c'est quasiment un anniversaire. Donc nous allons écouter dans un premier temps Royal Garden Blues, suivi de Tiger Rag, et ensuite je vous passerai In the Mist, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire In the Mist. Alors les Wolverines sont composés de Dick Voinoff au piano et à la direction d'orchestre, Bix donc au cornet, Al Gandé au trombone, Jimmy Hartwell au clarinette et au saxophone alto, George Johnson au ténor, Bob Gillette au banjo, et Min Laybrook à la basse avant, vous savez, le tuba en fait, hein, pour tout dire, Vic Moore à la batterie. Alors, le premier Royal Garden Blues a été enregistré le 20 juin 1924 et Tiger Rag a été enregistré également le 20 juin 1924, c'est-à-dire la veille de la naissance de mon papa. Et donc, comme vous pouvez le constater, ces deux morceaux ont exactement 102 ans.
Thank you.
Jazz Libre Radio Libertaire 89.4, donc il s'agissait de Royal Garden Blues et Tiger Rag, et donc maintenant nous allons écouter un morceau qui est tout à fait étrange, qui s'appelle In the Mist, c'est-à-dire dans le brouillard, hein, dans le, on va dire comme ça, et interprété par Bix au piano, parce qu'il a commencé par jouer le piano, il a joué du cornet d'oreille en fait, hein, une vie très très mouvementée, mais il était excellent pianiste, et c'est quelqu'un qui a été très très influencé très rapidement par des musiciens comme Debussy et Maurice Ravel, et dans ce morceau on peut sentir quelque chose déjà qui va vers un ailleurs. Donc on est presque dans une autre dimension. Je vous rappelle qu'on est quand même en 1924, hein, c'est quand même assez étonnant. Là, le In the Mist a été enregistré en septembre, le 8 septembre 1927. Et il y a évidemment cette figure romantique qu'on peut retrouver chez des musiciens comme Chet Baker ou Bill Evans, avec ce côté un peu fracassé lié à la défonce, mais Bix cherchait quelque chose d'autre, visiblement, et on le sent, d'ailleurs, je vous recommande l'achat de ce double album, parce que ça permet de comprendre qu'il y a vraiment un style très différent, y compris dans les ensembles avec les Wolverines ou avec les Sioux, les autres musiciens, quelque chose qui diffère un petit peu de la musique de Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans. Bon, déjà, ils sont partis à Chicago, hein, vous connaissez, je vous ai déjà expliqué la différence entre New Orleans et Dixie, c'est la même musique, mais une est faite par les Noirs et une est faite par les Blancs. Encore une fois, Bix et Satchmo, donc Louis Armstrong, s'admiraient mutuellement, donc toutes ces histoires de Blancs et Noirs dans le jazz n'ont vraiment aucun intérêt. Enfin, je veux dire... Voilà, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du discours des musiciens. Pour en revenir à ce thème, In the Mist, il y a quelque chose tout de suite où on sent qu'il s'échappe par moments vers des harmonies très très différentes, des choses que va réutiliser évidemment Duke Ellington plus tard. Et évidemment, il y aurait une interaction puisque des musiciens comme Debussy, bien que plus précoces par rapport à Ravel, auront été quand même influencés par le jazz, et notamment Ravel, qui, lors de son séjour aux États-Unis, a vraiment beaucoup apprécié cette musique, comme à chaque fois je vous le dis. Ce que je voulais également dire, c'est que dès le début, dans cette musique, que ce soit New Orleans, de Chicago, ou de Pittsburgh ou d'ailleurs, les thèmes fonctionnent de manière générale, comme dans toutes les musiques, c'est-à-dire qu'on a l'exposé d'un thème, le développement du thème, éventuellement un pont, c'est-à-dire quelque chose qui va relier deux rives harmoniques et mélodiques, et puis dans la musique plus populaire, on va revenir au thème de base. Bon, on trouve ça chez Mozart, on trouve ça chez Beethoven aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'exposé d'un thème, par exemple la 9e ou la 5e, pom 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 pom, et puis petit à petit on va développer quelque chose. Alors, dans la musique classique, on ne revient pas forcément au point de départ, mais en tout cas, le principe reste le même. On expose un thème, on développe, donc en jazz, on va improviser ce développement, alors qu'en musique classique, on va l'écrire. Mais c'est ce qui fait aussi cette richesse et cette particularité du jazz, c'est l'improvisation. Et puis on va revenir au point de départ. Et donc ça, c'est immuable que vous ayez, hormis dans le free jazz, où on avait encore que, dans certains cas, c'était pas tout à fait aussi évident que ça, mais on a toujours ce même fonctionnement. Voilà. Depuis, y compris dans le jazz moderne d'aujourd'hui, on a un développement, un thème, on improvise, on revient au thème. Voilà, donc c'est parti pour Tiger Rag, pour In the Mist, pardon, excusez-moi, et vous allez comprendre à quel point ce musicien aurait pu faire des choses beaucoup plus, à mon avis, aller encore beaucoup plus loin s'il avait vécu un petit peu plus de 28 ans. Voilà, c'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, donc, vous avez vu que c'était quand même assez incroyable cette musique. Alors là, je fais un petit peu, on passe tout à fait à autre chose, un pas de côté d'un guitariste peu connu du grand public qui s'appelle Marc Longchamp. Et pour un album autoproduit qui s'appelle Perfect Places, donc des endroits parfaits. Donc c'est un guitariste et pianiste peu connu, mais en même temps quand même assez prestigieux. Il a joué entre autres avec Francis Lockwood, Dominique Di Piazza, Benjamin Jouet, enfin voilà. Bon. Et puis surtout, ce qui apparaît dans sa biographie, c'est qu'il a été pendant assez longtemps, oui, il a travaillé également avec Eric Lolan, le trompettiste. Et il a, en 83, travaillé pour un album de John Baez qui va devenir disque d'or et il va recevoir le prix de l'Académie Charles Cros. Il va donc partir aux États-Unis avec elle en tant que directeur musical, guitariste et pianiste. Et donc voilà, il va faire beaucoup d'allers-retours avec pas mal de musiciens. Il va rencontrer également à Memphis le fondateur de la firme Stax, bon, la fameuse firme du rhythm and blues de Otis Redding et compagnie, enfin, c'est voilà, quand même assez important. Et il va travailler beaucoup tout seul, c'est-à-dire que comme il est multi-instrumentiste, il va faire pas mal de choses sous, je dirais, son propre chef, son propre label. Et là, c'est le cas, donc il fait la batterie, la basse, le piano, évidemment la guitare. Alors, bon, il m'a contacté directement, donc c'est un petit retour comment dire, de politesse, et puis voilà, j'ai apprécié aussi son album. Je dirais quand même que c'est un peu le problème que moi j'ai aussi quand j'ai fait un certain nombre de maquettes tout seul, c'est que c'est difficile d'endosser plusieurs costumes en même temps. Et donc, on ne fait bien que ce qu'on sait faire. Mais par exemple, dans le générique que vous écoutez, qui est un thème de Coltrane, mais que je joue moi-même tout seul, notamment avec la partie vibraphone, je pense qu'il y a des limites à l'exercice. C'est-à-dire que, bon, par exemple, dans cet album, il n'y a pas de solo de piano, ce n'est que de la guitare. Donc, il y a quelque chose qui, à mon avis, donne un peu ses limites. Alors, c'est un très bon guitariste, je le précise. Il sait parfaitement jouer, il a une connaissance des sons, il travaille de la guitare acoustique électrique avec beaucoup d'effets particuliers dans certains cas. Enfin, je veux dire, c'est très très bien fait à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense qu'il a mériterait d'être avec des musiciens dont la spécialité, et puis de renouer, je dirais, avec le fait d'être en groupe, que chacun fasse son solo, voilà. Donc là, c'est un petit peu, mais c'est sympa. Alors, notamment, c'est une très belle édition parce qu'il y a en plus un DVD. Donc vous le voyez jouer tous les instruments en même temps. Donc là aussi, il y a quelque chose un petit peu du domaine de la performance, mais que je trouve aussi intéressant. Ça peut aussi avoir un petit côté pédagogique que je trouve pas mal. Donc je vous ai choisi deux thèmes. Alors, je vous ai choisi deux thèmes parce que c'est là où il est en duo avec lui-même. Il y a une partie guitare de fond qui donne l'ensemble du rythme et de l'harmonie, puis il improvise dessus. Et donc, il y a le thème de Charlie Chaplin qui s'appelle Smile, que évidemment tout le monde connaît. Et puis, un autre tube aussi, Stella by Starlight. Voilà, c'est parti. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire, donc vous aurez bien évidemment reconnu que c'est dans l'ordre inverse. On a d'abord Stella by Starlight en duo avec lui-même et ensuite en quartet le Smile de Charlie Chaplin. Dernier point que je voulais préciser, c'est que c'était des albums, la plupart du temps, complètement autoproduits. Donc vous pouvez aller sur son site, Marc Longchamp, L-O-N-C-H-A-M-P-T, guitariste, et puis vous verrez, il y a une boutique en ligne où vous pouvez vous procurer l'ensemble de sa discographie. Voilà, je ne pourrais pas mieux vous dire. Alors maintenant, nous passons à un musicien israélien, mais installé à New York depuis longtemps. Et je vous ai déjà parlé de ce producteur. Il s'agit de Simon Belelti, qui lui-même est guitariste, et avec le fameux label Jojo Record. Et donc là, il y a ce musicien qui est un saxophoniste ténor qui s'appelle Asaf Yuria. Le titre de l'album s'appelle In Light of a New Moon. Ne vous précipitez pas, l'album sortira le 4 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours à peine. Et il est accompagné avec quand même une très très belle, un très beau casting, ce qui est George Cables au piano, qui visiblement n'a pas l'air très très bonne santé sur la photo. Omer Avital à la contrebasse, Billy Hart à la batterie magnifique, et puis Joe Magnarelli à la trompette. Alors on est dans un style tout à fait hard bop, dans l'esprit des Messengers, d'Art Blakey, évidemment, d'Ora Silver, Clifford Brown. Bon voilà, toute cette grande mouvance post-bop, John Coltrane, avant qu'il devienne complètement mystique et qu'il parte dans ses trucs. Mais voilà, on a Sonny Rollins, évidemment, qu'on nous retrouverons en fin de d'émission. Benny Golson, Hank Mobley, enfin bon, voilà. Vous voyez, tout, typiquement ce genre de choses. Mais ce qu'ils ne disent pas, et moi j'ai repéré ça plutôt dans le premier morceau, il y a quelque chose qui me rappelle à la fois dans le son, dans les harmonies, dans une espèce de douceur, quelqu'un comme Clifford Jordan, et notamment dans ce magnifique double album The Glass Beat Games, qui est absolument superbe, qui fait partie pour moi d'un des plus grands disques du jazz, bien que ce ne soit l'anti-virtuosité absolue. Comme quoi, on n'est pas obligé forcément de jouer à 72 millions de kilomètres heure pour que ce soit bien. Voilà, donc George Cables a 81 ans, et comme je vous le disais, même si physiquement il n'est pas au sommet de sa forme, par contre pianistiquement, ça envoie toujours du lourd. Alors nous allons écouter dans l'ordre un premier thème qui s'appelle After the Morning de John Hicks, et donc c'est là où je vous dis qu'il y a un petit côté Clifford Jordan. Ensuite, Ipsy Blues de Joe Magnarelli, qui a composé pour l'occasion, et Praise of Shadows. Voilà, donc ne vous précipitez pas, ça va bientôt sortir, mais c'est un disque que je vous recommande chaudement. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire, donc on a vu dans le deuxième morceau de Asif, pardonnez-moi, Yuria, que le Ipsy Ipsy Blues, on était vraiment dans l'esprit complètement des Jazz Messengers. Alors nous continuons toujours avec le même producteur Jojo Record, Simon Belletli, qui produit aussi Yotam Silberstein, le guitariste. Donc là, il s'agit d'un autre saxophoniste, alors plus connu. Il s'agit de George Garzon, qui évidemment n'est pas connu du grand public, mais quand même quelqu'un d'important, puisqu'il a beaucoup, comment dire, il a en fait passé 50 ans d'enseignement à la Berklee School of Music de Boston. Il a seulement eu 12 albums en leader et 8 avec un autre trio. Et donc, il a formé des musiciens aussi importants que Joshua Redman, Branford Marsalis, Donny McGafflin, Mark Turner, Seamus Black, Chris Sheik, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un musicien pour les musiciens, mais qui est, évidemment, il a passé beaucoup de temps à enseigner, donc on ne peut pas tout faire forcément, mais en tout cas, quelqu'un de très connu. Il est accompagné pour l'occasion par Randy Brecker, donc le frère de Michael à la trompette, le frère de Michael Brecker, Randy à la trompette, Luis Perdomo au piano, excellentissime, Santi De Briano à la contrebasse. Alors, voilà, Santi De Briano, c'est un contrebassiste qui a beaucoup joué avec pratiquement tout le monde, et le magnifique Jeff Ten Watts, à la batterie, qui a joué notamment avec Kenny Garrett, entre autres, qui est un peu dans l'esprit de Roy Hens, un peu ce genre de batteur extrêmement solide, extrêmement puissant. Et donc, Theme for Good Friends, c'est-à-dire les thèmes pour les bons amis, va sortir le 11 septembre, date symbolique s'il en est. Et donc, écoutez, je vous recommande également cet album qui est tout à fait, alors non pas tout à fait dans la veine du précédent, mais c'est quand même un petit peu le même esprit, avec un côté plus, entre guillemets, contemporain, notamment sur le traitement du piano. Et donc, nous allons écouter, pardonnez-moi, donc, le thème, alors oui, j'ai commencé, c'est assez rare d'ailleurs de voir des musiciens utiliser ce thème, c'est Uja Ama de Archie Shepp. Il y a une très très belle version quand il est en quintette, dont les sessions de Montreux de 1975, là où j'étais, ce qui ne nous rajeunit pas. Ripty Boom de Santi De Briano, excellent. Et puis, je vous ai choisi également un thème de George Garzon lui-même qui s'appelle The Mingus That I Knew, avec une anecdote concernant la rencontre de George Garzon avec Mingus. Je pense que vous l'aurez dans l'album, ce que nous n'avons pas, nous, forcément. Mais enfin, bon, voilà, c'est une rencontre qui était assez gratinée. Je vous signale qu'il y a également un duo saxophone-batterie dans le thème de Giant Steps de Coltrane, et bon voilà, beaucoup d'autres choses, mais comme j'ai encore d'autres choses à vous faire écouter, vous n'aurez droit qu'à 3 thèmes de cet album, et puis voilà, il faut soutenir les artistes en achetant leurs albums. Voilà, c'est parti.